Retrouvez Eco d'ici, Eco d'ailleurs avec Orange Monnaie pour accéder à des services financiers simples et sécurisés.
Eco d'ici, Eco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui vous donne des clés pour mieux comprendre l'économie mondiale. Dans 6 mois tout juste, la France sera en train de voter pour désigner son président de la République. Vous l'entendez au quotidien sur l'antenne de RFI. La campagne est bel et bien lancée. Emmanuel Macron candidat, on verra. En tout cas, il fixe déjà le cap économique pour 2030. Réindustrialiser, décarboner et au passage créer les champions de demain, ces entreprises qui notamment dans les technologies d'avenir vont faire rayonner la France à l'international, lutter à armes égales avec les géants américains et chinois en particulier. La French Touch économique incarnée hier et aujourd'hui par LVMH, Total, L'Oréal, Carrefour, Sanofi, dans l'avenir peut-être par Blablacar, Deezer, OVH Cloud qui entre en bourse, Doctolib, d'autres encore, des réussites à l'international. Et elles ne sont pas les seules. Outre ces géants, de très nombreuses PME ou ETI, entreprises de taille intermédiaire, tissent leur toile dans le monde, malgré une concurrence de plus en plus rude, malgré les complications issues du Covid. Un beau défi et un beau sujet de réflexion pour notre invité Vincent Vicard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Vous êtes en charge du programme scientifique Analyse du commerce international. Quel est le poids de la France dans le monde? Est-elle réellement en perte de vitesse? Quelles sont les stratégies adoptées par les groupes français? Sont-elles adaptées au contexte international sans cesse renouvelé? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission qui nous mènera à Dubaï, en Chine et en Afrique. Pour réécouter et pour commenter, RFI Echo, ces deux mots sur Twitter et sur Facebook.
J'appelle à un nouvel élan pour l'emploi, pour nos entreprises, pour garantir notre place et notre rang dans le monde. Ce n'est pas le moment de marquer une pause.
Extrait d'un discours de Jacques Chirac. C'était le 15 mai 1997 à Pékin, en Chine, lors d'un voyage officiel où le président français venait vanter les mérites des entreprises tricolores. Le sujet n'est pas nouveau. Vincent Vicard, chaque président, ou presque, a son plan pour créer des champions à l'international. Emmanuel Macron ne fait pas exception dans un monde encore plus compliqué, peut-être que celui de ses prédécesseurs.
Oui, sûrement un monde plus compliqué aujourd'hui, le Covid, un certain nombre de sujets de géopolitique internationale, un monde sûrement plus conflictuel que celui qu'on connaissait à l'époque de Jacques Chirac. Et donc ce plan présenté par Emmanuel Macron, et vous avez raison de le souligner, c'est un exercice qu'on retrouve régulièrement par des présidents français. Alors aujourd'hui, on a le plan France 2030 d'Emmanuel Macron avec 30 milliards d'euros qui sont proposés pour investir dans des technologies d'avenir. Il faut se rappeler qu'il y a même pas 5 ans, on avait un autre plan, le grand plan d'investissement en 2017, 57 milliards d'euros aussi pour investir dans l'innovation et l'industrie. Le plan d'innovation proposé aussi les PIA, ce qu'on appelait les PIA par Nicolas Sarkozy en 2009. Donc voilà, on a ces plans-là, donc il faut les remettre aussi dans leur contexte. C'est une volonté de l'État de donner des directions sur les innovations qui sont nécessaires de manière sociétale, et donc la puissance publique veut favoriser, mais il faut aussi le remettre dans un contexte de 30 milliards, c'est pas beaucoup par rapport à aux ambitions qui sont affichées. Alors il y a des bons côtés, hein, c'est d'une certaine façon on a un ciblage sur il y a 10 objectifs qui ont été déterminés, donc ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'en France on a plutôt l'habitude d'avoir ce qu'on appelle des instruments horizontaux comme le crédit impôt recherche qui favorise la recherche et développement sur tous les sujets. Là, on identifie vraiment des secteurs, et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Bon, on n'en sait pas beaucoup, par contre, sur la mise en œuvre, la gouvernance, qui va gérer ces fonds, comment ils vont être distribués. Voilà, il y a encore beaucoup de questions qui sont posées de ce point de vue-là.
Si on s'arrête encore quelques secondes sur ce plan, l'un des objectifs d'Emmanuel Macron, c'est de réindustrialiser malgré les contraintes environnementales. Les entreprises françaises n'ont pas toutes vraiment bien compris le concept.
Alors oui, effectivement, on a une question qui se pose en France, celle de la désindustrialisation. La France a une part de l'industrie dans l'emploi, dans le PIB, plutôt moins importante que celle de ses partenaires européens, assez similaire à des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, mais donc a connu une désindustrialisation sûrement plus rapide que ses partenaires européens. Donc il y a une vraie question qui se pose de ce point de vue-là, et qui se double de l'autre phase de cette désindustrialisation, c'est l'activité à l'étranger des entreprises françaises. La France se caractérise par beaucoup de multinationales, des multinationales qui sont plutôt performantes à l'international. Si, pour juste donner un chiffre, quand on regarde le classement des 500 plus grandes entreprises au niveau mondial, on en retrouve 31 qui sont françaises en 2019. C'est plus que l'Allemagne, qu'en a 29, c'est plus que le Royaume-Uni, qu'en a 16, c'est plus que l'Italie ou l'Espagne. Donc on a cette spécificité française d'entreprises qui pour une bonne part sont aussi des entreprises industrielles, qui sont très performantes à l'étranger et pourtant produisent assez peu sur le territoire national. Donc cette question de la réindustrialisation, elle est sûrement plus importante pour la France que pour les autres pays. Elle pose aussi la question de, à partir du moment où on favorise l'innovation de ces entreprises, on les aide à innover sur nouveaux secteurs, où se fait l'application de cette innovation ? Est-ce que c'est dans les usines françaises ou dans les usines étrangères ?
Je reviens à ma question. D'un point de vue environnemental, est-ce que c'est un plus ?
Alors, de ce point de vue-là, il y a un des projets, notamment de la Commission européenne, c'est le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, qui est important, justement. À partir du moment où on met en place des normes environnementales importantes en France, il y a une question d'avoir un niveau, une concurrence non faussée avec des producteurs ou des lieux de production pour les usines des multinationales françaises à l'étranger, qui sont pas soumis aux mêmes règles. Et donc, ce mécanisme d'ajustement à la frontière, il doit permettre d'égaliser les règles si on a des contraintes environnementales plus importantes en France. Et la deuxième dimension, et je pense que c'est une des dimensions qui est intéressante dans le plan qui est présenté, qui se concentre beaucoup sur les aspects environnementaux, la décarbonation, les énergies propres, c'est aussi de dire qu'à partir du moment où on veut aller vers une décarbonation, une réduction de l'empreinte carbone sur le territoire français, il faut aussi mettre en face une offre productive de façon à ce que les technologies qui sont utilisées par les entreprises pour décarboner, elles soient aussi produites sur le territoire national. Donc il y a une question qui se pose, et c'est une question qu'on a vue de manière assez prégnante sur, par exemple, l'énergie solaire. Avec les panneaux solaires, il y a eu des incitations fiscales à la mise en place de panneaux solaires en France, à l'installation de panneaux solaires en France, et on a vu qu'une bonne partie de la production s'est déplacée en Chine, et donc il y a la question qui s'est posée de déséquilibres commerciaux suite à ces politiques de décarbonation.
On a commencé à aborder cette question de la place des entreprises françaises à l'international. Et on va les entendre, ces entrepreneurs qui essaient de faire leur trou à l'étranger. Il y a une occasion pour eux en ce moment, c'est l'exposition universelle qui se tient pour plusieurs mois à Dubaï. Leurs espoirs, leurs difficultés. Écoutez ce reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, à Dubaï, de Marie Normand.
La porte se ferme et donc on est dans la capsule et là on s'est téléporté au château de Versailles.
Parcourir le monde, confortablement installé dans une capsule immersive, c'est la promesse d'Immertech, la start-up dirigée par Stéphane Brard.
Soit on positionne des caméras 360 n'importe où sur la planète et on peut téléporter les gens là-bas, ou alors, au lieu de faire de la téléportation, on fait du voyage dans le temps et cette fois-ci on reconstruit des contenus 360 comme les premiers pas de l'homme sur la Lune, le discours de Martin Luther King, la construction de la Tour Eiffel. Et les personnes qui s'assoient dans la capsule peuvent se voyager dans le temps et se retrouver à cette époque et voir ce qui s'y passait.
On s'assoit ?
On peut.
Quatre sièges, une image projetée à 360 degrés comme dans une petite géode. Mais ce n'est pas juste un système de projection, assure l'entrepreneur de 27 ans.
On a des grands comptes qui vont l'utiliser pour faire de la téléportation avec des applications très métiers. J'imagine notamment EDF ou qui ont besoin de se téléporter dans des centrales nucléaires dans lesquelles il faut faire de la maintenance par exemple, sans se déplacer.
Tarif de la capsule Voyager, 200 000 euros minimum. Immertech espère en vendre ou en louer 4 ou 5 d'ici la fin de l'exposition universelle. La société a investi 500 000 euros pour s'installer ici, à l'entrée de l'espace business du pavillon français. Un lieu stratégique, puisque toutes les délégations françaises et étrangères y passeront les 6 prochains mois.
On a presque 2 semi-remorques de matériel qui sont arrivés ici, donc c'est pas la porte à côté. Donc non, c'est un très gros investissement, mais grosse mise, gros gain. Quoi.
Un pari aussi pour François Peyrac, président des Compagnons du Miel, une coopérative qui regroupe 129 apiculteurs français. Lui aussi est présent à l'expo pour faire découvrir ce miel français certifié commerce équitable aux Émirats Arabes Unis. Un marché sur lequel les miels asiatiques et latino-américains sont pourtant déjà bien implantés.
Je ne crois pas du tout que les portes soient ouvertes, mais en tout cas si on n'essaye pas, on n'y rentrera pas. Et on pense que le miel français, par sa diversité et par sa qualité, a toute sa place. Le fait de l'exposition universelle met tout ce travail en lumière, donc on espère que ça va être un accélérateur pour nous, pour développer dans cette zone.
Des entreprises accompagnées par Business France, l'agence nationale chargée du développement des exportations françaises et des investissements internationaux en France. Pour Christophe Lecourtier, son directeur général, l'exposition universelle, c'est le bon outil au bon moment.
Ici à Dubaï, on sonne les premiers coups d'une relance où il faut que la France apparaisse un peu en tête de peloton. Et on va faire en sorte que ce pavillon soit véritablement une vitrine de l'expertise française dans des tas de domaines. C'est vraiment l'occasion de le révéler à un public qui n'est pas forcément celui qui vient le plus souvent en France. On a parfois tendance à nous caricaturer comme une puissance d'hier et un petit peu prise dans ses traditions et sa belle histoire. On est très fiers de notre passé, mais on est absolument convaincus qu'on sera un des protagonistes majeurs du monde d'après.
Le pavillon français a d'ailleurs avant tout été conçu pour organiser des événements du B2B, bref, pour favoriser la signature de contrats. Selma Chami, directrice de projet Business France, qualifie l'exposition de tournoi international.
On essaie d'avoir des avantages concurrentiels sur notre communication. Nous ne sommes pas attendus sur l'expo. Il y aura énormément de concurrence. Vous êtes sur une zone anglophone. La francophonie est peu présente à Dubaï. La France rayonne par sa culture, rayonne par son éducation, rayonne par son histoire. Mais sur l'innovation, nous devons nous démarquer sur des axes où on a un avantage concurrentiel concrètement. Territoire maritime, sport, santé. Nous souhaitons jouer notre carte sur ces trois secteurs particulièrement.
50 délégations d'entrepreneurs français, souvent sectorielles, sont attendues à l'expo d'ici mars 2022. Marie Normand, Dubaï, RFI.
Vincent Vicard du CEPI est à mes côtés pour analyser la stratégie économique de la France à l'étranger. La France, une puissance d'hier, trop fière de son passé, c'est nous caricaturer, halt au French bashing.
Alors oui, c'est en partie nous caricaturer, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, on a de grandes entreprises qui sont présentes non pas seulement sur des secteurs traditionnels,
il y a le luxe, effectivement le luxe,
tout à fait, mais l'aéronautique c'est pas un secteur du passé, c'est un secteur qui est très intensif en recherche et développement. On pourrait citer aussi les composants électroniques sur lesquels il y a une filière en France. On pourrait citer aussi
à développer
sûrement à développer effectivement, parce qu'on a vu qu'il y a effectivement eu un basculement sur les composants électroniques vers la Chine, mais il n'empêche que au niveau européen la France conserve avec certaines entreprises, peut-être par exemple Schneider Electric ou ST Microélectronique, qui sont importants dans ces secteurs. Mais voilà, il y a effectivement une question qui se pose. Je pense que qui est pas spécialement française. Il y a une question qui se pose sur certaines technologies, des virages technologiques que l'Europe dans son ensemble a sûrement manqué. Notamment, on pense tout de suite au numérique, où les grands acteurs sont américains ou chinois. On a très peu de grands acteurs européens. La France n'est pas au niveau européen, par rapport à ses partenaires européens, la France n'est pas forcément en retard, on a des grands acteurs, mais au niveau mondial, très clairement, l'Europe est en retard. Et d'un certain point de vue, ça pose la question de comment on peut investir sur, pas ces technologies sur lesquelles on est en retard, mais peut-être les technologies de demain, et notamment les technologies...
Se démarquer, comme disait l'une des interlocutrices du reportage, le secteur maritime, le sport, la santé, par exemple.
Alors oui, effectivement, secteur maritime, sport, alors sport, pourquoi pas, santé, il y a d'autres secteurs. Enfin, on peut aussi revenir sur l'automobile. Il y a des enjeux forts sur l'automobile, même si pour la France, c'est des enjeux sûrement moins forts que pour l'Allemagne, mais il y a des enjeux forts sur le véhicule électrique, le véhicule autonome, qui vont avoir des conséquences sur l'empreinte industrielle qui vont être très, très très fortes. Il y a aussi des enjeux sur l'avion propre d'Airbus, il y a beaucoup de publicité qui a été faite, notamment dans le plan 2030, par exemple, sur l'hydrogène, la décarbonation des processus industriels en utilisant l'hydrogène. La France, par exemple, est plutôt bien placée sur certaines des briques technologiques sur l'hydrogène. Donc ça pose la question plutôt d'identifier les secteurs. Donc il y a une dimension prospective de l'État, d'identifier ces secteurs d'avenir et de les mettre en regard avec les forces et les avantages français. Et je pense que c'est ça aussi, parce que tous les grands pays ont ces grands plans à 2025, à 2030. Alors, il y a le plan China 2025. On a Industrie 4.0 en Allemagne. En Corée du Sud, il y a d'autres plans. Et si on regarde l'hydrogène, par exemple, on le retrouve au Japon, on le retrouve en Allemagne. Si on prend l'intelligence artificielle, on le retrouve aussi dans la plupart des pays, etc. Donc, d'une certaine manière, tous les pays investissent un peu dans les mêmes grands secteurs. Et donc, la question, c'est trouver les secteurs sur lesquels la France a des acteurs. Et ces acteurs, c'est non seulement des start-up qui peuvent avoir un écosystème de start-up qui puisse développer des nouvelles technologies, mais c'est aussi utiliser les forces françaises, et les forces françaises, c'est aussi les grandes entreprises multinationales qui sont à la pointe sur certains secteurs. Voilà, dans la santé, on a un grand laboratoire pharmaceutique, Sanofi, c'est aussi une force.
Qui n'a pas trouvé de vaccin, mais qui travaille sur bien d'autres produits et qui est effectivement en pointe sur bien d'autres produits. Vous avez déjà parlé plusieurs fois de la Chine. Eh bien, on y va. On va à Pékin avec notre correspondant Stéphane Lagarde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Bruno, bonjour à votre invité.
Les entreprises françaises, comment se portent-elles dans cette Chine qui subit elle aussi les conséquences durables de cette pandémie de Covid-19?
Alors évidemment, ça dépend un peu des secteurs, Bruno, mais disons que globalement, les entreprises françaises ici présentent ont profité de la reprise post-Covid, puisque tout simplement l'économie chinoise a redémarré avant les autres. On est sorti du Covid plus vite aussi, tout en restant, et ça c'est vrai, c'est une particularité chinoise, vous avez raison, dans la stratégie du zéro Covid, avec un filtre aux frontières qui rend les voyages encore difficiles. Ça paraît anecdotique, mais comme me disait un patron de PME hier, bien, la visio, c'est bien, mais on ne fait pas d'investissement par téléphone. Donc pour ceux qui veulent investir, ça reste compliqué. Donc on est reparti très vite en Chine, mais avec des incertitudes. La crise de l'énergie, les pénuries d'électricité, les problèmes de transport, pas de bateaux, les conteneurs hors de prix, on en a parlé sur l'antenne. C'est difficile encore de faire tourner les usines. Et puis il y a les incertitudes politiques, la campagne de prospérité commune, ça aussi on en a parlé, le partage des richesses façon Mao, qui a fait chuter en bourse l'action LVMH. Bon, c'est vite... Il s'est vite relevé, le luxe français marche très bien ici, mais il y a ces questions, en tout cas ces incertitudes, qui font que les entreprises que j'ai vues avant cette émission m'ont dit qu'elles s'attendaient plutôt à un ralentissement de la croissance et à de moins bons résultats l'année prochaine.
Stéphane, à propos des start-up, quelle est la situation pour la French Tech chez vous, en Chine?
Alors ça marche plutôt bien, la French Tech a bénéficié, ici, comme après le Covid, comme beaucoup d'entreprises de la tech. On avait cette semaine un rendez-vous justement pour la French Tech entre Paris, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong, où il y avait plus de 600 inscrits, Bruno, ça c'est du jamais vu. Ici, il y a encore un an ou deux, on n'avait pas un quart, on va dire, des startups françaises qui regardaient vers la Chine, et aujourd'hui une grosse vingtaine de boîtes de la French Tech 120 s'intéressent au marché chinois. Elles sont, on va dire, décomplexées vis-à-vis des États-Unis, donc elles peuvent ouvrir maintenant le regard vers l'Asie et vers la Chine, avec évidemment la guerre commerciale sino-US qui est passée par là et qui fait que stratégiquement le pouvoir chinois a aussi intérêt à s'ouvrir aux Européens.
Puisqu'on vous tient encore quelques secondes, Stéphane, plus généralement pour les groupes étrangers, quel est précisément le climat des affaires? Est-ce que certaines entreprises sont effrayées par l'attitude des autorités chinoises?
Bon, on a vu le départ de LinkedIn cette semaine. Depuis mars dernier, le réseau américain était dans le collimateur du régulateur chinois de l'Internet, mais il n'est pas le seul. Un déluge de réglementations s'est abattu sur les géants de la high-tech ici, dans une reprise en main des GAFAM chinois, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des investisseurs comme le japonais SoftBank, par exemple, un gros actionnaire chez Alibaba qui se pose des questions et songe peut-être à mettre ses billes ailleurs. J'ai vu aussi que certains studios coréens s'inquiétaient, par exemple, de la mise au pas du secteur du jeu vidéo en ligne en Chine. Donc la réaffirmation de la puissance du pouvoir chinois avant le 20e congrès du parti l'année prochaine sur l'économie, sans même parler de la crise immobilière Evergrande. Donc effectivement, ça nourrit des questions chez les entreprises étrangères.
Merci Stéphane. Bonne journée à Pékin. Vincent Vicard, et effectivement, cette articulation entre la géopolitique et l'économie, les relations entre les grandes puissances qui peuvent avoir des conséquences pour les entreprises victimes d'une certaine manière de cette situation.
Oui, on est définitivement aujourd'hui dans un environnement international qui est plus géopolitique, plus conflictuel que celui qu'on a pu connaître depuis 20 ans, voire même 30 ans, depuis peut-être la chute du mur de Berlin. Et donc ça pose la question de quels sont les gains au commerce. On pose maintenant les questions, alors au niveau européen, d'autonomie stratégique, on pose la question de l'autonomie stratégique ouverte au niveau européen. En France, on parle de souveraineté économique, on a questionné la dépendance à l'importation. Donc effectivement, il y a cette vision le commerce international crée des gains, mais il crée aussi des dépendances. Et ça, c'est une des dimensions qui est importante. Et du côté des entreprises, Alors, c'est un élément qui est à double tranchant, parce que les entreprises, elles sont les représentantes, les entreprises étrangères, elles sont les représentantes de leurs gouvernements nationaux, et à ce titre-là, effectivement, elles peuvent être ciblées par certains gouvernements et défavorisées, et on en a beaucoup entendu parler en Chine, avec les vols de technologie ou des choses comme ça, mais elles sont aussi des employeurs sur les marchés locaux. Et de ce point de vue-là, elles ont des relations avec les gouvernements, et donc c'est assez différent le fait d'exporter vers un marché ou de produire localement. Et par exemple, c'est quelque chose qu'on a vu dans le conflit entre Airbus et Boeing en 2019 avec l'imposition de droits de douane qui avait été autorisée par l'Organisation mondiale du commerce. Et Airbus a une usine d'assemblage d'Airbus aux États-Unis, en Alabama. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les droits de douane qui avaient été imposés sur les avions n'était pas imposé sur les composants d'avions de façon à ce que, justement, cette usine aux États-Unis puisse continuer à produire. Et donc, on voit bien que la notion d'emploi sur place, elle est importante et elle crée des complémentarités, elle crée des relations avec les gouvernements locaux et qui permettent aussi de s'abstraire de certaines tensions internationales, ce qu'on retrouve beaucoup moins, par exemple, dans le cas des exportations et des excédents commerciaux qui, dans un certain nombre de pays, posent question, en tout cas, sont utilisés comme arguments politiques pour mettre en place des sanctions contre certaines entreprises.
Vous avez parlé du vol de technologie. Est-ce que la France est bonne dans cette guerre économique? Est-ce qu'on est des bisounours, comme disent certains? Est-ce qu'on est trop gentil avec d'autres puissances?
Alors, je suis pas sûr. Après, on dit ça pas forcément de la France, on dit ça souvent de l'Europe, de ce point de vue-là. Quand on regarde l'ouverture de l'Union européenne, c'est pas forcément le cas. Après, je pense qu'il faut aussi pas tomber dans une vision purement géopolitique des relations économiques internationales. Il y a aussi des gains mutuels, il y a aussi des complémentarités, il y a aussi de la collaboration qui se fait. Et donc, par contre, il faut effectivement, faut pas être naïf. Il y a des concurrences. Il y a avec l'aide des États, par l'intermédiaire de subventions, par l'intermédiaire d'appui des administrations. Et la France, de ce point de vue-là, a par exemple une administration diplomatique assez développée qui permet d'accompagner aussi les entreprises internationales, qui permet aussi de les aider quand elles sont soumises à des difficultés dans leur pays d'activité. La France, elle est, comme les autres pays, soumise à ces questions-là avec deux grands acteurs au niveau international, les États-Unis et la Chine. Et ça pose peut-être la question, plutôt que ce que peut faire la France, c'est aussi ce que peut faire l'Europe. Et il y a une question vraiment européenne, l'Europe comme acteur de ce nouvel environnement géopolitique. On sait que la nouvelle commission européenne s'est présentée comme une commission géopolitique avec la volonté d'imposer aussi au niveau européen un certain nombre de pratiques contre des pratiques discriminantes, par exemple en Chine, de dénoncer des subventions dans certains secteurs, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit que la Chine est non seulement un marché de destination, un marché sur lequel on veut que les entreprises s'implantent ou exportent, mais c'est aussi un concurrent de plus en plus évident aussi sur les secteurs de spécialisation européens. Et ça, je pense que c'est de plus en plus partagé au niveau de nos partenaires européens, notamment l'Allemagne, qui pendant longtemps a bénéficié de ses exportations vers la Chine. Aujourd'hui, elle est confrontée à une concurrence un peu plus frontale, et ça pose cette question-là.
Vous avez parlé des subventions. Est-ce que la France et l'Europe en général est suffisamment préservée des investissements étrangers sur son propre territoire?
Alors oui, il y a une question de ce point de vue-là, et qu'on a vu vraiment les instruments pour protéger les entreprises, protéger notamment les petites entreprises, les petites start-up qui développent de nouvelles technologies, des brevets. Il y a eu un développement récent des instruments pour justement protéger ces entreprises de prise de contrôle étranger. Alors, on a beaucoup parlé de la Chine de ce point de vue-là, mais c'est pas le seul acteur. Et donc, c'est ce qu'on appelle des mécanismes de filtrage des investissements directs étrangers qui permettent, dans un certain nombre de secteurs qu'on considère comme stratégiques, de bloquer ou de mettre des conditions au rachat par un opérateur étranger. Et donc, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en France. Typiquement, en 2020, on a eu 275 cas qui ont été étudiés par le ministère des Finances. Et il y a eu des cas qui ont été qui le revendiquent très ouvertement. Et puis, des cas qui ont été, qui apparaissent assez évidents. En tout cas, par exemple, le rachat avorté de Photonis, qui est une entreprise qui travaille sur des instruments d'optique et d'enregistrement, qui sont utilisés dans l'industrie civile, mais aussi dans la défense, et donc qui a été bloqué, et pour le coup, par le rachat était par une entreprise américaine. Donc on voit que c'est pas seulement une préoccupation en provenance de Chine. Il y a d'autres cas où on peut se poser un petit peu plus de questions. Par exemple, ça a été utilisé ces instruments dans le cas de la proposition de rachat de Carrefour par Couche-Tard. Effectivement, l'agroalimentaire,
la grande distribution
fait partie des secteurs qui sont soumis à ces mécanismes de filtrage. Il y a plus de questions qui se posent de ce point de vue-là pour des grandes entreprises internationales qui ont aussi des activités à l'étranger. C'est moins clair de ce point de vue-là.
Les entreprises françaises dans la compétition mondiale à 6 mois de l'élection présidentielle. On en parle avec notre invité Vincent Vicard du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale.
We're working with G20 nations to agree to a global minimum corporate tax rate that can stop the race to the bottom.
Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, il y a quelques mois, pour annoncer le soutien de l'administration Biden à l'idée d'une nouvelle taxation des multinationales. Vincent Vicard, est-ce que cette idée qui avance, on en parlera au G20 dans quelques jours, est-ce qu'elle pourrait rebattre les cartes de la concurrence entre les grandes entreprises dans le monde, pénaliser peut-être les géants américains?
Alors, l'origine de ce projet, effectivement, c'était justement de questionner, en particulier pour le secteur du numérique, cette capacité qu'ont les entreprises du numérique à ne pas payer d'impôts dans les pays où elles ont des opérations. Aujourd'hui, le projet tel qu'il a été signé il y a une semaine, il concerne beaucoup plus d'entreprises. Ils se concentrent pas uniquement sur le secteur du numérique. Il y a une problématique sur le secteur du numérique. Et finalement, pour le secteur du numérique, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner plus de taxation, parce que c'est l'objectif, donc une augmentation de leur charge fiscale. Mais par contre, ils vont récupérer de la sécurité juridique, parce que jusqu'à maintenant, on voyait qu'il y avait des taxes sur les services numériques, donc la fameuse taxe GAFA en France, qui était imposée dans beaucoup de pays, qui les visaient. Et un des engagements, c'est aussi de supprimer ces taxes. Donc du point de vue des entreprises numériques, plus de taxes, mais plus de sécurité juridique. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas du tout uniquement les sociétés du secteur numérique qui font de l'évitement fiscal ou de l'évasion fiscale. On a beaucoup d'entreprises, si on prend le cas de la France, où on a très peu de ces grandes multinationales du numérique, on a des évaluations qui nous montrent que c'est, on aurait 10 à 15 milliards d'euros de manque de recettes fiscales dues à l'évasion fiscale des multinationales en France. Donc c'est un enjeu qui est plus global. Et finalement, c'est un enjeu aussi en termes de concurrence entre pays. C'est aussi un enjeu de concurrence entre grandes entreprises et petites entreprises. Ces grandes entreprises multinationales, elles ont un avantage parce qu'elles peuvent éviter l'impôt, là où les petites PME ne peuvent pas éviter l'impôt. Et de ce point de vue-là, la France se caractérisait par un haut taux d'impôt sur les sociétés et en même temps des multinationales qui ne le payaient pas ou le payaient peu sur leurs activités.
Donc ça va rééquilibrer.
Effectivement, ça va rééquilibrer, ça pose la question. Alors, on parle beaucoup du rôle des startups dans l'innovation, etc. Mais il y a aussi une question en France qui se pose sur les relations entre les grands groupes et les nouveaux acteurs. Et je pense que ça va aussi rééquilibrer de ce point de vue-là, même si ça ne veut pas dire qu'on va d'un coup voir l'émergence d'un nombre extrêmement important de PME ou d'ETI en France, comme on peut en avoir en Allemagne. Mais en tout cas, ça va rééquilibrer, ça a donné l'opportunité d'une concurrence plus équilibrée entre les deux.
Est-ce que les groupes français devraient monter davantage de partenariats avec des homologues européens? Airbus est un exemple. On va le faire, par exemple, dans les batteries électriques.
Oui, alors c'est une question qui se pose, qui se pose à mon sens dans des secteurs qui sont caractérisés par deux choses, alors et qui correspondent aux batteries électriques, à l'automobile, c'est à des secteurs qui sont confrontés à des ruptures technologiques et donc qui ont des nécessités d'une part d'investir et d'investir des montants importants, et on voit dans les batteries électriques les usines sont extrêmement, c'est des investissements tout de suite extrêmement importants, et aussi il y a la question de récupérer des compétences que les constructeurs automobiles n'ont pas forcément. On peut penser par exemple sur la voiture autonome, il y a eu un accord entre Renault, Nissan et Google pour développer la voiture autonome. Même si on en parle beaucoup moins aujourd'hui, on parle beaucoup plus des questions de l'électrification des voitures. Il n'empêche que cette recherche de compétences, elle peut donner lieu à des collaborations au niveau européen, et je pense que c'est une question les complémentarités entre producteurs européens, elles doivent être posées, mais éventuellement au niveau international.
Renault-Nissan, c'est un bon exemple. Le mariage, c'est pas tout à fait bien terminé, ou en tout cas, il prend pas une excellente tournure.
Alors c'est un exemple ambigu parce que ça a permis aussi le développement international de Renault. Après, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent de manière générale sur l'automobile en France avec des constructeurs qui se portent plutôt pas si mal au niveau international, mais même s'il y a des enjeux qui se posent bien sûr aujourd'hui, et que ce soit à Peugeot ou à Renault, Nissan, mais aussi des constructeurs qui ont privilégié l'étranger, et notamment avec Nissan, des investissements qui ont été faits par l'intermédiaire de Nissan, peut-être plus qu'au niveau de Renault, et qui ont privilégié l'étranger pour leur production et servir le marché national. C'est un vrai enjeu au niveau français, qui a été d'ailleurs rappelé par Emmanuel Macron dans son allocution mardi. La production automobile, ça explique une grosse partie de l'écart de compétitivité, de performance à l'exportation entre la France et l'Allemagne.
Mais les synergies internationales sont a priori un atout. On va maintenant s'interroger sur la présence française en Afrique. En 20 ans, la part de marché de la France a régressé, mais les investissements, eux, sont en croissance parce que le marché augmente globalement. Surtout, les entreprises tricolores présentes sur le continent africain aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'hier. Écoutez ce qu'en dit Axel Barou, c'est le directeur de Business France pour l'Afrique subsaharienne qui gère 8 bureaux sur le continent. Olivier Roger l'a rencontré il y a quelques jours lors du forum Ambition Africa 2021. Il réunissait un millier d'entrepreneurs français et africains.
Alors, il y a deux choses qui ont changé. D'abord, depuis 20 ans, on a quand même perdu beaucoup de parts de marché en Afrique, ce qui prouve que l'Afrique n'est pas un précaré français. On se bat avec des nouveaux venus, des compétiteurs. Évidemment, on a en tête les Chinois, mais les Turcs, les Européens, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont aussi très très présents. D'autres pays africains, le Maroc en particulier, la Russie sur certains matériels. Donc voilà, on a des marchés qui sont de plus en plus compétitifs et de plus en plus concurrentiels.
On est sur un marché plus compétitif, plus concurrentiel, mais qui a aussi tendance à augmenter énormément. C'est-à-dire que peut-être que les parts de marché françaises se sont réduites, mais la part des investissements français a augmenté.
Voilà, on voit qu'on est un acteur important, mais qu'on n'est plus l'acteur principal en termes de commerce extérieur. En revanche, en termes d'investissement, aujourd'hui, la France, c'est 3200 filiales françaises en Afrique, c'est 650 000 emplois directs, c'est très important. Et surtout, la structure de ces investissements a vraiment changé. On voit qu'on n'a plus seulement les grands groupes du CAC 40 qui viennent, qui sont toujours présents, mais on a aussi de plus en plus d'entreprises de taille intermédiaire, de grosses PME qui s'implantent, forge des partenariats, qui crée des relations gagnant-gagnant avec des entreprises africaines et qui sont là dans une stratégie de long terme.
Ces PME qu'on voit arriver aujourd'hui en Afrique représentent quelle part de l'investissement français annuel en Afrique ?
Alors en part d'investissement, ça reste une grosse minorité, mais une minorité parce que évidemment quand vous avez des grands investissements avec des grands groupes français,
moi je Total, Bouygues,
voilà. Je vais citer Air Liquide qui crée sa plus grosse usine au monde aujourd'hui, unité d'oxygénation aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc voilà, vous avez des volumes qui sont très très importants. Par contre, en nombre de projets, aujourd'hui, on a de plus en plus de PME, de TI, de mid-caps, comme on dit, qui viennent en Afrique, qui développent des projets, qui ont la perspective de ce que sera l'Afrique dans quelques années. Alors on parle beaucoup de la révolution démographique, mais aussi avec l'ASLECA, de la création de cette zone de libre-échange qui va être la plus importante du monde. Et donc voilà, tout ça ouvre des perspectives dans une logique, encore une fois, de long terme et de création de valeur et d'emplois.
On parle effectivement d'un changement de la taille des entreprises françaises qui vont sur le marché africain. On s'aperçoit aussi qu'il y a un changement dans la composition et dans les secteurs concernés. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on voyait Elf, on voyait Pechiney, on voyait Saint-Gobain. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit davantage les secteurs les plus porteurs de l'économie française s'exporter vers l'Afrique, c'est-à-dire les services, la grande distribution, le luxe?
Oui, alors on voit beaucoup de choses, on voit tout ça. Vous avez cité les services, les équipements agricoles. Là aussi, beaucoup d'entreprises qui font le pari de l'Afrique, que ce soit dans les équipements pour les vignes en Afrique du Sud, que ce soit pour les serres en Afrique de l'Ouest. Évidemment, la distribution, c'est un enjeu majeur et c'est en miroir avec l'évolution de la population africaine, notamment l'émergence d'une classe moyenne qui est importante, très importante dans certains pays, mais la Banque mondiale chiffrait à 300 millions de personnes à peu près sur le 1,2 milliard de personnes l'importance de la classe moyenne en Afrique, avec des souhaits de consommation différents, des habitudes de consommation qui se rapprochent de plus en plus de nos habitudes occidentales. Donc tout ça, ça ouvre effectivement des possibilités. On a parlé des services, on parle beaucoup de la tech en Afrique. Il y a une scène foisonnante, bouillonnante sur les sujets nouvelles technologies. Donc voilà, on a deux nouveaux acteurs, de partenaires qui sont de plus en plus exigeants. Hein, on fait aussi du business différemment. Il faut écouter son client, il faut écouter les besoins, il faut se projeter. Et surtout, parce que c'est la clé du succès en Afrique, il faut avoir une approche gagnant-gagnant. Ça fait un peu, on répète un petit peu ça tout le temps, mais c'est vrai que les plus beaux exemples que l'on a sont des exemples de croissance partagée.
C'est-à-dire créer du contenu local et créer des emplois locaux.
Voilà, créer des emplois locaux. Et on dit que l'Afrique, ce sera 2,5 milliards d'habitants en 2050. La moitié de ces 2,5 milliards aura moins de 25 ans. Alors c'est une richesse formidable, c'est aussi un défi.
Axel Barou, le directeur de Business France pour l'Afrique subsaharienne, interrogé par Olivier Roger, Vincent Vicard. On a entendu beaucoup de choses hein, dans les dernières secondes. Écouter son client, créer des emplois locaux, ne pas donner l'impression qu'on est venu finalement seulement pour faire de l'argent.
Oui, alors ça dépend aussi du type d'investissement dont on parle. Il y a des investissements qui se font pour servir le marché domestique et donc pour accéder aux consommateurs, et c'est un peu ce qui est évoqué dans la fin du reportage. Et donc ces investissements, et notamment dans le secteur des services, ils visent à justement créer de l'emploi, servir des consommateurs locaux, des entreprises locales, fournir des entreprises locales, éventuellement fournir des services à des gouvernements. Et ça, on voit qu'effectivement, c'est une des spécialisations françaises. Les secteurs des services, que ce soit dans l'énergie, le traitement de l'eau ou beaucoup d'autres choses, la logistique, sur lesquels historiquement les entreprises françaises ont eu un rôle et qui impliquent plus de présence locale. Et ce qui explique aussi pourquoi il y a une présence locale relativement importante, peut-être plus que des exportations vers ces pays. Il y a aussi d'autres types d'investissements et c'est ce qui a été évoqué avec Air Liquide. Air Liquide, quand Air Liquide investit et crée une usine dans un pays, c'est aussi pour servir le marché local, mais aussi pour exporter vers les pays limitrophes éventuellement, ou voire plus loin, ça dépend des cas. Et dans ces cas-là, il y a effectivement une création d'activités locales et qui pose la question effectivement de l'emploi, des relations avec les partenaires locaux. Mais il y a aussi une logique de s'insérer dans des chaînes de valeur internationales et qui bénéficie aussi à ces pays-là. Il y a une vraie question qui se pose sur comment intégrer un certain nombre de pays en développement, notamment africains, sur ces chaînes de valeur au niveau international.
Est-ce qu'il faut réfléchir sa présence, ses investissements, en fonction aussi de la croissance démographique? C'est le cas pour l'Afrique.
Bien sûr, effectivement.
Selon les zones, certaines croissances sont attendues plus fortes que d'autres.
Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on a déjà vu dans d'autres zones. La France, historiquement, a plus de relations avec les pays européens, dans lesquels il y a une demande moins dynamique que dans le reste du monde. Et c'est ce qu'on attend d'ailleurs quand on parle de perte de part de marché en Afrique. Oui, il y a une perte de part de marché parce qu'il y a d'autres pays qui croissent plus vite. Et c'est ce qu'on attend, la Chine, l'émergence de la Chine, de l'Inde ou d'autres pays
africains. Mais le marché lui-même.
Et le marché lui-même grossit. Et donc ces investissements, effectivement, ils se font dans une perspective de long terme, en anticipant à plusieurs années, voire une dizaine d'années, sur des investissements qui vont dépendre de la demande qui va être adressée et donc l'anticipation de cette demande. Donc les marchés en expansion, notamment en Afrique, c'est une des dimensions de la dynamique de l'investissement dans ces pays-là pour les entreprises européennes. C'est les marchés de demain aussi.
L'Europe reste un marché refuge pour les entreprises françaises?
Alors l'Europe, ça reste le marché traditionnel, je dirais, et naturel des entreprises françaises. On exporte d'abord et avant tout vers les pays européens. Quand on produit des chaînes de valeur, donc quand on produit dans différents pays différentes tâches pour un bien final, c'est d'abord et avant tout au niveau européen. On importe nos biens intermédiaires des pays européens. Pour les entreprises françaises, 40% de leur emploi à l'étranger, c'est de l'emploi dans les pays européens, donc les pays d'Europe occidentale, mais aussi les pays de l'Est de l'Europe, dans laquelle on a beaucoup aussi investi. Et donc, oui, l'Europe, ça reste un partenaire stratégique et aussi en termes de ce qu'on évoquait au début de l'émission, les questions de souveraineté économique. L'échelon pertinent, c'est sûrement l'échelon européen avant l'échelon français de ce point de vue-là.
Le Brexit n'a pas tout mis par terre.
Alors non, le Brexit n'a pas tout mis par terre. Il pose des questions. Il pose des questions sur lesquelles on n'a pas forcément les réponses. Hein. Ça a créé des opportunités pour attirer un certain nombre d'entreprises. Alors on a beaucoup parlé du secteur bancaire ou du secteur financier en général. On n'a pas vu beaucoup de relocalisations en Europe, mais il y en a eu quelques-unes quand même. Ça pose des questions aussi pour les débouchés et l'activité de certaines des entreprises. On peut citer par exemple le secteur de l'automobile où c'est beaucoup plus difficile de pouvoir produire asphalte sur l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Alors ça pose des questions vraiment à terme parce que encore une fois c'est des investissements qui se font dans le long terme avec une perspective de 5 ou 10 ans. Et donc qu'est-ce que ça va exactement donner pour ces grands investissements qui nécessitent des échanges avec d'autres pays? On ne sait pas encore exactement, c'est vraiment une question qu'il faut suivre et voir exactement quel va être l'impact. Et puis ça pose aussi la question du positionnement du Royaume-Uni. Est-ce que c'est un positionnement sur une concurrence réglementaire, par exemple, sur certaines des dimensions qui pourraient venir donner des avantages aux entreprises au Royaume-Uni par rapport aux entreprises européennes, ou si on se place plutôt dans une coopération? Ça, c'est une vraie question qui est posée pour l'avenir avec un grand partenaire qui restera de toute façon un grand partenaire parce qu'un grand pays aux portes de l'Europe.
Eh bien, on vous réinvitera. Merci. Vincent Vicard, économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, en charge du programme scientifique Analyse du commerce international.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Restez encore un instant avec nous, Vincent Vicard, ça va vous intéresser. On va écouter un extrait d'un reportage, justement, sur le Brexit. Et si les Britanniques regrettaient leur choix? Certains, en tout cas, commencent à douter, car les pénuries se multiplient depuis plusieurs semaines. Carburant, nourriture, d'autres produits encore, pas suffisamment de chauffeurs routiers pour acheminer les marchandises. Le grand reportage d'Alexis Bédu nous mène sur une aire d'autoroute qui est réservée aux chauffeurs routiers près de Folkestone, dans le sud de l'Angleterre.
Il manquerait environ 10 000 chauffeurs routiers dans le pays. L'armée a été réquisitionnée pour approvisionner certaines stations londoniennes. Peter est chauffeur pour une entreprise qui vend des transats et autres chaises longues à travers l'Europe.
Énormément de routiers étrangers sont rentrés chez eux à cause de la réglementation fiscale. Maintenant, ils doivent avoir un salaire annuel de 26 000 livres sterling pour avoir le droit à un visa. Et ces gars n'ont pas les moyens.
So that is a big problem because these guys don't earn it. Also, transport.
Et puis, cela fait longtemps que la commission des transports prévient notre gouvernement. Beaucoup de routiers anglais ne sont pas loin de la retraite. Ceux que je connais ont presque tous plus de 50 ans. Il y a très peu de jeunes dans le métier.
Pour attirer les chauffeurs étrangers, le gouvernement britannique a décidé de leur ouvrir 5000 visas de travail provisoires. Mais la démarche rencontre très peu de succès pour l'instant. Un peu plus d'une centaine de citerniers ont accepté l'offre.
Nice place.
Oh, it's a terrible place right now.
Yeah.
It's a mess.
Hank Van Inger est un chauffeur hollandais pour une société de transport britannique. Là, il se rend au Maroc, le camion rempli de vaccins AstraZeneca, et il se sent bien seul sur la route.
The crisis here, in the whole Europe, in the whole world, there's a crisis.
La crise qu'il y a ici, c'est la même dans toute l'Europe. Il y a une pénurie de chauffeurs dans le monde entier.
Now I heard also in the morning on the radio there's an kind of visa.
Ce matin à la radio, j'ai entendu qu'ils distribueraient des visas de travail, mais seulement jusqu'à février prochain. Mais qui voudra venir à cette période? Personne n'a envie de quitter son pays, sa famille, pour les fêtes de fin d'année. Ça ne marchera pas. Mais bon, ils doivent bien tenter quelque chose. Tout ça, c'est vraiment très bizarre. Ce monde est très étrange et je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne suis pas le seul d'ailleurs.
But I think I'm not the only one.
Brexit, 10 mois après, le temps des regrets, avec un point d'interrogation. Grand reportage d'Alexis Bédu. C'est à retrouver sur notre site internet rfi.fr et on vous met le lien sur la page d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Et de cette crise mondiale des approvisionnements. On reparlera dès la semaine prochaine, ici même, les chaînes d'approvisionnement bloquées en partie à cause de la pénurie de puces électroniques. On sera notamment à Taïwan avec notre correspondant Taïwan, où est basé le principal fabricant TSMC. Si vous avez des questions, posez-les-nous sur Facebook et sur Twitter, sur notre compte RFI Echo.
RFI, les voix du monde.
Avant de se quitter, tournons-nous vers l'avenir, à quelques semaines de la COP26. Réfléchissons à des modèles économiques plus respectueux de l'homme et de l'environnement. C'est en tout cas l'ambition du mouvement Impact France, co-présidé par Jean Moreau. RFI, en l'occurrence Pauline Glaise, l'a rencontré lors des universités de l'économie de demain.
L'économie de demain, c'est une économie où l'entreprise a un rôle qui dépasse celui de simplement faire du chiffre d'affaires et du profit in fine, même si c'est important et qu'on soutient cette thèse-là, on pense que l'entreprise doit avoir un supplément d'âme et une mission qui a un impact social ou environnemental, et idéalement les deux, positif. Dans l'idéal, une entreprise peut contribuer à rendre le monde un peu meilleur et donc à s'adresser à des problèmes de société comme la lutte contre la précarité, pour l'insertion, la diversité, l'accès à une meilleure éducation, la réduction des déchets, la lutte contre le réchauffement climatique. Tout ça, ça, on pense que l'entreprise peut jouer un rôle. Et ça veut dire aussi, c'est quelque chose dont on parle moins parfois, mais que l'entreprise a aussi réinventé ses pratiques internes. Et donc là, nous, on insiste sur deux choses, partage du pouvoir et partage de la richesse. On peut converger vers un tiers entre les entrepreneurs qui prennent le risque, entre les financeurs, les investisseurs qui mettent de l'argent dans les entreprises, et puis entre les salariés qui créent la valeur au quotidien.
Est-ce que dans l'économie de demain, pour une entreprise, c'est savoir aussi s'arrêter à un moment donné, de vouloir grossir ?
Oui, c'est vrai qu'on se pose souvent la question de la décroissance, enfin croissance, décroissance, croissance soutenable. C'est compliqué de poser le curseur. Moi, quelque chose qui m'inspire, c'est sûr que si on regarde la nature, à un moment donné, que ce soit les arbres, les plantes, les humains, il y a une croissance et puis après elle s'arrête. Elle se stabilise sur une forme de rythme de croisière où on mesure 1m80 et on prend pas 3 cm chaque année. Donc peut-être que faire du biomimétisme, c'est-à-dire se calquer sur ce que fait la nature, c'est une voie à suivre, c'est-à-dire croître bien au début, atteindre une taille adulte pour gagner en stabilité, en solidité, mais ensuite on n'a pas forcément vocation à faire la course à l'échalote.
Qu'est-ce que vous espérez des candidats de la présidentielle ? Qu'est-ce que vous espérez qui figure sur les programmes ?
On veut mettre en place un Planet Score. Sur l'exemple réussi du Nutri-Score, sur les produits de consommation courante, on est à côté ou à la place, ou sur le non-alimentaire, un Planet Score qui dit ce produit, voilà son impact sur l'environnement, et qu'on puisse, en connaissance de cause, faire sa consommation, une consommation plus responsable. Deuxième chose, on veut que les entreprises publient de façon transparente, leur impact carbone. Quand une entreprise, notamment les grandes entreprises, se présentent, elles disent souvent deux indicateurs, le chiffre d'affaires et le nombre d'employés. On aimerait en rajouter un troisième dans la parenthèse, qui serait l'impact carbone. En tout cas, un élément concret de l'impact carbone, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, est-ce qu'il est horrible. Et troisième chose, la création d'une agence qui lutterait contre le greenwashing et le social washing. C'est-à-dire que le risque qu'on a en portant ces messages, c'est qu'ils soient récupérés et de façon plus ou moins pernicieuse. Et donc nous, on voudrait qu'il y ait une agence d'État, d'intérêt public, qui sanctionne les publicités mensongères et le greenwashing. Donc ça, voilà. C'est trois propositions concrètes qu'on va porter là en AMRE. Et notre objectif, c'est que, à minima, elles inspirent les candidats et qu'idéalement, elles soient reprises quasiment mot pour mot dans les programmes des principaux candidats à la présidentielle 2022.
Jean Moreau, le coprésident du mouvement Impact France. Nous voilà donc revenus à cette présidentielle française. Premier tour le 10 avril 2022. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bonne semaine à tous. Merci à Guillaume Munier pour la réalisation de cette émission. Merci à notre invité Vincent Vicard. Merci au service économie de Radio France Internationale qui m'a aidé à la préparer. D'ici là, portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, vous a été présenté par Orange Monnaie au service de l'inclusion financière des populations en Afrique.